Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Voilà, donc au sommaire de cette première émission du mois de mars, d'abord une interview et on va attendre avant de vous dire qui on reçoit. On va vous le présenter dans une ou deux minutes. Donc dans la première partie, une interview pour un roman paru très très récemment. Et puis dans une deuxième partie, des coups de cœur et des coups de cœur qui vont nous emmener un petit peu partout en Europe et même peut-être même à des frontières un petit peu plus éloignées que l'Europe. Et pour faire un très mauvais jeu de mots, je dirais que à la fin de l'émission, vous avez déjà droit à un premier sommaire, et bien vous aurez droit à un deuxième sommaire. Mais je vous laisse deviner, vous avez qu'à nous écouter jusqu'à la fin de l'émission. Avant,
si vous pouvez bien sûr.
Ben oui, mais il n'y a pas de raison. Mais j'espère que tout le monde s'est arrêté pour écouter nos conseils de lecture et nos conseils de polar. Voilà, donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour un roman sorti il y a très peu de temps, Joséphine Cardona. Joséphine Cardona, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc je disais qu'on va parler surtout de votre dernier roman qui est paru chez Paris-Gram, une collection noire qui s'appelle 7.5, je prononce bien ?
C'est ça.
Et le roman s'appelle Trash Circus, mais on va juste donner un petit peu votre itinéraire avant de parler de ce roman. Donc avant ce roman, 5 autres romans et puis plein d'essais d'écriture, nouvelles, voilà, une pièce de théâtre, s'arrête à une ?
Pièce de théâtre, scénario de bande dessinée aussi.
Voilà, et des ce qu'on appelle plutôt des romans graphiques,
voilà,
qui sont parus chez Enfant Rouge. On va pas donner le titre des romans, mais des romans graphiques. Il y a Petite Coupure, Fausse Route et Dans les Cordes, et c'est aux éditeurs Les Enfants Rouges. Voilà. Et puis une dernière question, j'ai ouï dire qu'à un moment de votre vie, vous étiez médiateur culturel, c'est toujours vrai ou vous consacrez entièrement à l'écriture ?
Maintenant, je me consacre entièrement à l'écriture, mais je l'ai été, oui. Oui.
Pour notre plus grand bonheur, il faut bien le dire.
D'accord.
Voilà, alors dans ce roman, le narrateur s'appelle Fred et on va le suivre pendant à peu près 3 mois, du mois d'octobre au mois de décembre. Il s'appelle Fred et il a étonnamment 2 facettes. Non pas qu'il soit schizophrène, mais le jour, c'est un espèce de golden boy qui travaille pour la télé, en gros prêt à tout pour entretenir sa Porsche et sa Rolex.
Oui,
et puis...
Oui.
Autre facette, supporter du PSG, tendance baston extrême droite, la nuit. Comment avez-vous l'idée de ce personnage ?
En fait, dans Trash Circus, on parle actuellement, on nous dit que nous avons une civilisation qui serait sans doute supérieure aux autres, etc. Enfin, toutes ces bêtises. Et justement, à travers ce livre, je voulais, c'est un peu le hasard de l'actualité qui fait ça, mais je voulais faire ressortir un petit peu tout ce qui ne va pas. Hein, dans ce monde, enfin beaucoup de choses, des dysfonctionnements, on va dire. Notamment, j'ai pris 2 vecteurs qui sont ceux de la télé-réalité et ceux du football, en fait. Je me suis rendu compte que ce sont 2 vecteurs pour vraiment expliquer un petit peu, raconter un peu la bêtise humaine.
C'est vrai que c'est un beau concentré.
Soit dans la violence à travers l'hooliganisme, soit à travers cette télé-réalité qui est... très impudique et puis qui est une télé qui se construit sur le malheur des gens. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ces deux aspects dans cette histoire. Et donc finalement, je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde contemporain. Et c'est parti comme ça.
Oui, comme je disais dans le début, c'est pas du tout schizophrénique, c'est-à-dire qu'il oublie pas du tout un personnage pour être l'autre, au début tout du moins, parce qu'on va quand même assister à une espèce de descente aux enfers, il est parfaitement conscient de ses 2 personnalités et on pourra même dire qu'il est un peu jusqu'au boutiste dans ces 2 facettes-là.
Oui, c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à ce personnage, c'est qu'on peut pas dire qu'il ne sait pas. Donc il est conscient parce qu'il représente un peu toutes les parts, hein, tout
ah oui.
Le mauvais. Il est presque une caricature à ce niveau-là. Il est homophobe, il est sexiste, xénophobe, arriviste, enfin. Et il est tout à fait conscient d'être ce qu'il est. Et il n'est pas du tout dans une approche maladive du problème. Il sait, il s'assume. Sauf que son monde, il est obligé de cloisonner pour pouvoir survivre.
Oui, forcément, la télé-réalité dont il fait partie, il s'occupe d'une des émissions vedettes de cette télé-réalité, de cette chaîne. Je pense qu'il ne verrait pas d'un très bon œil ce hooliganisme, même si on sait que certaines chaînes s'occupent du PSG. Où se sont occupés, donc c'est
oui,
pas
oui,
si...
Oui, bon, je fais tous ces liens aussi, hein. il y a toute une approche, entre guillemets, un petit peu historique du club, et puis des liens un peu co-sanguins et pas toujours très vertueux que certains dirigeants entretiennent avec la frange hooligan aussi de l'équipe. En tout cas, on parle déjà d'un ancien PSG, vu que depuis il était racheté par...
Oui, par, j'espère que vous n'allez pas nous emmener au Qatar la prochaine fois.
Voilà. Et ce qui est d'ailleurs assez comique, c'est que par rapport à une frange d'extrême droite, alors il n'y a pas qu'au PSG, hein, il y a plein de clubs, mais en fait finalement c'est un arabe qui a racheté le club. Donc il y a comme une sorte, enfin après coup, hein, c'est parce que moi je me suis basé sur l'ancien PSG, avant même qu'il numérote les places et sépare les supporters, etc. Finalement il y a comme une ironie là-dedans. Et oui, le personnage est aussi obligé de cloisonner sa vie parce que effectivement il gagne très très bien sa vie, il est très riche et puis en même temps à des moments il se fond dans cette masse, dans cette violence, et aussi quand il voyage, parce qu'il va en Hollande et puis il va fréquenter les bas-fonds, etc. Donc il a vraiment cette double personnalité qu'il arrive lui-même très bien à gérer, sauf que à un moment donné les choses ont commencé à se mélanger malgré lui, et là ça va plus pour lui. Et donc
il va y avoir une descente aux enfers. Ceci dit, vous avez dit, je vais peut-être être un peu plus mal poli que vous en ce début d'émission, mais effectivement ça fustige beaucoup beaucoup de conneries humaines, mais finalement au fur et à mesure du récit, le propos de ce roman, c'est aussi de montrer, grâce, je trouve, à des petites touches très subtiles, qu'il n'y a pas de différence dans la mentalité, dans le développement de la violence, du racisme, de tout ça, entre le golden boy de la télévision et un supporter du PSG. Finalement, ils sont à peu près tous coulés sous le même moule.
Oui, la connerie peut être universelle, oui. Elle est au-delà des classes sociales, au-delà des races, au-delà des cultures. Hein, quand on retrouve la bêtise, elle est malheureusement là. On peut potentiellement la retrouver partout. Donc c'est effectivement, il y a une sorte d'annulation à ce niveau-là. C'est vrai aussi que ce personnage, ça me fait penser à une chose. Enfin, certains lecteurs m'ont dit c'est assez dérangeant le fait que ce soit la première personne et puis.
Non, au moins, il va jusqu'au bout.
On n'arrive pas à avoir d'empathie avec ce personnage. Et justement, j'ai lu sur un site, sur un blog, quelqu'un avait cette définition assez intéressante pour dire c'est comme un virus, ce Frédéric Altier. Et on est avec lui dans le corps social, on va dire. On avance avec lui à tous les étages. Alors, comme vous dites, hooliganisme, enfin, on est proche des petits gens et qu'on est proche des élites. Mais en fait, finalement, on prend l'ascenseur social ou pas. On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite. On est dans une sorte de mouvement perpétuel à travers une ville, à travers des classes sociales, à travers des activités différentes.
Mais c'est vrai que la narration au jeu vous permet aussi, justement, c'est pas pour rien que ce livre quand même s'appelle Trash Circus, c'est-à-dire d'avoir des propos entre guillemets assez trash, et au moins il exprime toute cette pensée sans avoir besoin, à la limite, de la plume d'un autre. Et finalement aussi, le propos, c'est de montrer comment la société l'oblige à être comme ça.
C'était mon pari de parce que c'est pas évident d'écrire un tel livre en utilisant la première personne. Bien sûr, le jeu qui est dans le livre n'est pas moi, mais comme un comédien qui en offrait un rôle, bon, au bout d'un moment on entre dans la tête de ce personnage. Et puis c'est vrai que c'est pas facile d'écrire certaines choses auxquelles on ne croit pas et qu'on ne cautionne pas. Mais c'est une nécessité de l'écrire à la première personne pour avoir une plus grande force, en fait, plus de virulence pour pouvoir exprimer tout ce que ce personnage évoque.
Mais quand même, alors petit à petit, Alors, c'est un salaud intégral. Enfin, moi, on peut pas faire évidemment la collusion entre l'auteur, le personnage, entre les propos que vous lui faites dire et ce que vous pensez. C'est évident, mais ça peut être quand même très dérangeant, surtout quand on est du sexe féminin, parce que quand même, alors les femmes là-dedans, c'est quand même. Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Il fallait que je pose cette question-là, des hommes qui porte ses propos sur les femmes. Ça me semble étonnant.
Alors
peut-être suis-je très candide.
Il m'arrive encore parfois. Des gens que je découvre ou soit de vagues connaissances, mais encore l'autre soir dans un vestiaire de. Parce que bien sûr, moi je fréquente pas les salles de fitness. Hein. Je suis plus salle de boxe. Enfin là, j'ai pris un petit abonnement à l'époque pour parce qu'il va souvent au fitness, etc. Il a ce culte du corps. Mmh. Là encore, il y a quelques semaines, ce que vous entendez dans des vestiaires hommes de certains fitness, c'est ahurissant en fait. Donc oui. Non, et tout ce qui est là, bon, bien sûr, des fois je force un peu le trait, mais finalement tout ce qui est dans ce livre existe potentiellement dans la réalité. Hein.
Alors,
quand on dit ceci est une fiction, tout personnage. En fait, non, oui, tous les personnages existent. Enfin, ils sont pas nommés, mais ils existent potentiellement. Oui, oui.
Je pense que c'est un des avantages du roman noir, et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez choisi cette couleur-là de genre littéraire, c'est de décrire une réalité qui, si elle est sordide, n'en est pas moins totalement réelle.
Oui, ah oui, là j'ai collé au plus vrai, avec beaucoup de documentation, avec beaucoup de choses qui ont été vérifiées aussi. Puis bon, après, bien sûr, on prend la température, hein, sur l'idée un peu du thermomètre. Le roman noir est un thermomètre de la société, permet d'évaluer nos peurs, de conjurer nos craintes aussi. Hein, et ça, c'est un peu le rôle de. Enfin, j'ai dans l'idée que ce livre, on va ressortir le pire, c'est une façon de dire attention. Il est là potentiellement, donc soyons vigilants.
Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je relevais une phrase qui m'avait particulièrement intéressée pour décrire justement le type de personnage que Fred fréquente dans cette télé-réalité. Vous lui faites dire « Mais à force de rire de tout, à jouer tout le temps, on finit par s'approprier l'infâme en l'enrobant de supercherie et de bonne conscience. » Je pense que ce livre-là peut réveiller justement certaines bonnes consciences.
Oui. Ben, parce qu'en fait, ce personnage, bon, après, le personnage, il y a aussi des choses qu'on exprime sur le monde, hein. Mais c'est vrai que il a comme ça des moments de lucidité où il est conscient d'être un pourri. Et d'une certaine manière, il dit, je n'y peux rien. C'est arrivé comme ça. J'ai manqué de courage moral, et puis finalement voilà où j'en suis, parce qu'il faut pas oublier que ce personnage, en fait, il vient de la rue, hein, il s'est fait à la force du poignet, hein. D'ailleurs, en épousant une femme beaucoup plus riche que lui, qui grâce aux connexions de sa femme, il est arrivé, donc il sait d'où il vient aussi, hein, il a pas oublié d'où il vient, sauf qu'il a renié complètement, quand il va retrouver les papiers chez son père, qui est à l'hôpital.
Oui, son père est en train de décéder à l'hôpital, il s'en fiche complètement.
Voilà, il va chercher, parce qu'il a besoin des papiers pour la sécu, etc. Il se retrouve dans ce vieux quartier de Paris, l'appartement pourri, qui est humide, etc. Et puis il revoit d'où il vient, c'est qu'il vient de là, mais c'est quelque chose qu'il renie complètement. Et d'ailleurs, son père, il va le laisser se débrouiller tout seul.
Alors, quand même, je trouve une des grandes qualités du roman, c'est que vous ne cherchez pas à l'excuser, mais justement, quand même, ce type, il a une complexité, il a quand même... Et de temps en temps, on va voir ses failles, on va voir ses faiblesses, on va dire. À un moment donné, vous lui faites dire « Je ne sais pas aimer, ma bite a besoin des femmes, mais pas moi, et juste après, à moins que ce ne soit de l'amour, mais c'est un territoire... qui m'est étranger. Là, on voit vraiment à quel point toute la société l'a façonné pour être cette espèce de gagnant hyper clinquant, mais qui a rien derrière, quoi.
Oui, il est dans l'incapacité de l'amour, justement. C'est la totale dissociation fabienne, je dirais, de l'amour et de la sexualité. Il souhaiterait même, parce qu'il y a une collègue qui de travail.
Il effleure une belle histoire, mais il l'effleure.
Voilà, mais pour lui, enfin, en plus, bon, il est dans un rapport de sexualité très brutal. C'est-à-dire que pour bander, il faut qu'il fasse mal. Il est vraiment dans un rapport sadomasochiste, hein. Donc il est dans une sexualité déviante. Il est aussi, on le voit à un moment donné. Il est à Amsterdam. Il va voir un prostitué homme. Et en plus, il tape sur les homosexuels. Mais en fait, il refoule aussi cette bisexualité qu'il a. Donc il est bipolaire, j'ai même tri-quadripolaire.
Oui, je pense, oui.
Et tout ce qui lui reste finalement pour affirmer une sorte de point d'ancrage, de centre de gravité, tout ce qui lui reste finalement c'est le sexe. Pour ça qu'il est toujours dans cette obsession aussi, celle de l'argent, celle du sexe et celle de la violence et de la position sociale, parce que c'est l'unique chose qui finalement ne ment pas pour lui. Il est dans un monde de mensonges, il est toujours en train de cacher quelque chose, et là finalement bon, c'est le seul moment où il ne ment pas, c'est le seul aspect animal qui, c'est tout ce qui lui reste au fond, hein.
Oui, mais bon, c'est pas non plus c'est pas une belle facette non plus de son personnage. Alors malheureusement, le temps passe très vite. Je voudrais juste rappeler les trois derniers romans, parce que j'ai l'impression que au départ, vous êtes arrivé par le noir, par une pochade, par vous amusiez avec les codes du polar, c'est Lonely Betty.
Oui, j'y suis allé un peu avant avec Remington, chez Fayard Noir en 2000.
Chez Fayard Noir, oui.
Mais si vous voulez, pour moi, j'écrivais avant du gris, on va dire, et depuis quatre livres maintenant, vraiment, j'ai trouvé ma famille, hein, littéraire, je dirais, qui est le genre et qui est tous les gens dont vous faites partie qui sont aussi à côté, qui font part de cette grande famille du polar. Et c'est vrai qu'avec chaque roman, donc je fais pas du polar, je fais plutôt du noir.
C'est du roman noir.
Voilà, roman noir. Et chaque fois, j'essaie d'écrire un roman qui, avec un point de vue et aborder le noir de façon différente. C'est pour ça qu'il y a,
voilà, oui, donc,
il y a le roman social, il y a la critique sociale, il y a le thriller avec 220 volts aussi.
Voilà, c'était le deuxième que j'allais évoquer, donc plus thriller, plus sérieux, mais aussi avec quand même s'amuser de façon sous-jacente avec les codes du polar. Et là, on s'amuse plus, on est vraiment dans le roman noir profond.
Ah oui,
et si je dis roman noir, c'est bon, c'est pas une enquête, c'est pas un meurtre, c'est vraiment le destin d'un homme dans notre société en 2012.
C'est ça. Et puis, il y a un aspect tragique, hein, qui est propre au roman noir, finalement. Hein,
et oui, on va revenir à la tragédie grecque.
Et voilà, à Oedipe Roy.
Voilà. Bon, ben, on restera sur ce grand roman, Évocation. Et puis, je vais rappeler, donc, Trash Circus, chez Paris Gramme, un excellent roman. J'espère qu'on vous lira bientôt et qu'on aura le plaisir de vous réentendre, Joseph. Merci
beaucoup. Avec grand plaisir.
À bientôt.
Merci, merci, au revoir. À vous, au revoir.